Bonjour, bienvenue au balado Les Semeurs, le balado à pollinisation croisée pour semencières et semenciers passionnés qui nous racontent leurs histoires, nous partagent des conseils pratiques et leurs cultivars préférés. Je suis votre animateur Hugo Martorell et je me joins à vous depuis Montréal, Jojage, territoire ancestral des Ganyangahag. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Mel Sylvestre, maraîchère biodiversifiée de Grounded Acres Organic Farm en Colombie-Britannique. Ça fait 20 ans que Mel Sylvestre travaille en agriculture et plus d'une dizaine d'années qu'elle s'intéresse aux semences. Et dans cet épisode, on va en apprendre plus sur son parcours et puis comment elle en est venue à développer et sélectionner sa propre variété de betteraves. Donc, bonne écoute. Allô Mel, alors pour commencer, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es situé en fait? C'est quoi ton entourage? C'est ça, est-ce que tu es sur ta ferme?
Bah oui, moi je suis sur ma ferme, ça s'appelle Grounded Acres Organic Farm. C'est à Gibson's en Colombie-Britannique, ce qui est sur la côte Sunshine Coast, qui est dans le fond dans l'ouest sud de la Colombie-Britannique. Puis ça, on a une petite ferme d'environ 5 acres. On fait de la ferme maraîchère avec un petit peu de poules, un petit peu de poules, une centaine de poules. Ouais, c'est ça en gros.
C'est ça, et étant en Colombie-Britannique, vous avez quand même un climat assez privilégié pour cultiver des semences. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus?
Oui, c'est ça. C'est même pour le maraîcher, c'est quand même assez fantastique, malgré que c'est pas aussi chaud qu'au Québec pendant l'été. Alors, on a beaucoup de produits qui pourraient être poussés à l'extérieur des sables, mais ne produiront pas aussi bien. Mais on a un automne et un printemps très doux, et même un hiver beaucoup plus doux aussi. Alors, c'est sûr qu'on a des gels au sol, etc. Mais en étant dans le sud-ouest de la côte, on peut garder des produits en sol à travers l'hiver, ce qui, oui, est un avantage en tant que semencier, semenceur. On peut, comme la famille des brassicas, c'est ça qu'on dit, brassica, en français. Ceux-là peuvent, beaucoup de cette famille-là peut rester en terre, ce qu'on n'a pas à les... hiverniser, je ne sais pas si hiverniser
les hiverner,
c'est
ouais.
De l'éventer.
Ouais.
Alors, il y a beaucoup d'avantages à ce niveau-là pour faire pousser des semences ici.
Ouais, tu mentionnes les crucifères, comme j'imagine comme le brocoli, les choux, mais aussi des toutes les bisannuelles, finalement les légumes racines. Vous avez des hivers beaucoup plus courts, donc en fait vous n'avez pas besoin d'entreposer vos légumes racines pendant 6 mois comme ici.
Oui, et je veux dire, il y a beaucoup de légumes racines qu'on va quand même entreposer, juste parce que la quantité de pluie qu'on a pendant l'hiver, des fois, dépendant des champs, dépendant comment notre drainage fonctionne dans les champs, c'est beaucoup mieux de les entreposer, mais on n'a pas à les entreposer aussi longtemps.
Ouais.
Alors souvent, j'ai fait des betteraves et des carottes dans le passé, et puis on a pu les sortir des champs juste au mois de novembre, même en décembre si on était un peu en retard, les entreposer pour juste une couple de mois, puis les ramener dans les champs au mois de mars, qui est beaucoup plus court, qui est beaucoup moins compliqué dans l'entreposage, puis d'avoir la condition parfaite d'entreposage. Puis aussi avec certains légumes racines, aussi on veut les inspecter, on veut les voir à l'extérieur de la table pour pouvoir sélectionner. Fait que c'est une pratique qu'on fait aussi, mais c'est moins d'entreposage.
Ouais, on en parlera un peu plus en détail quand on discutera votre projet de betterave. Mais avant ça, je voulais que notre auditoire ait l'occasion de mieux te connaître en fait. Et donc, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ton parcours qui, avant d'être de fonder Grounded Acres Farm?
Moi, ça fait environ une vingtaine d'années que je suis en agriculture. Je suis devenue fermière par accident, souvent. J'étais dans la sonorisation et puis voilà, je vais regarder l'histoire courte, mais un jour je me suis ramassée sur une ferme, je suis tombée en amour avec la ferme et puis j'ai jamais retourné à la sonorisation après ça.
Donc quand
Et
tu dis
puis
sonorisation, on entend bien l'industrie du son, donc tu étais une technicienne Du son, en fait.
Une technicienne de son. C'est ma formation. J'en ai pas
C'est
fait
comme une
d'années.
DJ, en fait.
Là, non, je serais pas DJ. Puis ça fait 20-25 ans. Alors, ramenez-moi pas sur une technique de son parce que je ne serais pas capable de faire marcher un soundboard présentement. Mais c'est ça, c'est dans ma début vingtaine. Alors, j'ai commencé environ pendant une dizaine d'années, j'ai commencé au Québec. Et puis, après une couple d'années, j'ai déménagé en Colombie-Britannique. J'étais sur l'île de Vancouver. Je faisais dans la culture maraîchère biologique en général. Après une dixième année, c'est là que soudainement, je me suis aperçue que les semences qu'on achetait tout le temps venaient de travers le monde. Puis ça me comme c'est drôle que ça m'ait pris presque 10 ans de découvrir ça, parce que c'est tellement une grosse partie de l'agriculture, c'est d'acheter les semences, c'est la première étape, etc. Puis c'est vraiment quelqu'un qui poussait des semences pas loin d'où ce qu'on était, qui m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus. Alors, mon parcours de semencière a vraiment commencé là, voilà environ 10 ans, une dizaine d'années. Puis, bon, je me suis promenée d'une ferme à l'autre. J'ai fait, c'est ça, j'étais sur l'île de Vancouver pendant 6-7 ans. Puis là, je suis décidée de retourner aux études pour aller chercher mon baccalauréat en sol et la science des sols et des plantes à l'université de UBC. Puis une ferme à UBC. Alors j'ai joint l'équipe de la ferme tout de suite en arrivant parce que pour survivre dans la ville, j'avais besoin d'être sur une ferme. Puis j'ai commencé des programmes, des projets, je dirais, au début de semences. Genre, je connaissais pas beaucoup les semences à l'époque. Alors j'expérimentais, puis c'était bien à cause qu'on était payé à l'heure. Alors je
Ouais,
pouvais
c'est
vraiment
ça.
prendre des projets
Puis t'as pas besoin de vendre des
aussi.
légumes pour garantir ton salaire, quoi. Donc,
Etc. C'était le parfait, c'était le moment parfait dans mon développement de faire ces essais-là. Et puis, c'était aussi attaché à mes études. J'avais des crédits même d'études pour faire ces projets-là de semences. Puis, ça s'est comme développé en devenant ce qu'on avait appelé dans le temps le Seed Hub. Je ne sais pas s'ils l'appellent encore comme ça. Fait que c'était un projet de production de semences, puis de recherche, etc. On faisait des variety trials, des essais de variétés. Alors, il y a beaucoup qui s'est attaché à ça. Le projet continue encore, même ça s'est développé en Canovie éventuellement. J'ai vraiment rien à faire au niveau de l'académie, niveau académique par rapport à ça. J'étais juste la fermière en chef, je
ouais.
dirais. Mais on s'est associé justement avec des personnes académiques pour faire cette recherche-là. Puis, ben, moi, dans mon développement, j'ai jamais vraiment voulu être en ville pour si longtemps. Alors, on a finalement trouvé une ferme, moi et ma partenaire dans le temps. On a eu deux enfants aussi. Deux, c'est des jumelles. On les a eu en même temps.
Wow.
Puis, on a déménagé sur la côte Sunshine. On vient de finir notre troisième saison sur cette terre-là. Nos enfants sont rendus à 4 ans. Puis, on a développé notre petite business ici. Puis, les semences, je dirais, quand j'ai déménagé ici à Grounded Acres, il a fallu que je les mette de côté un peu juste pour pouvoir partir le côté maraîcher de la ferme. Mais j'ai jamais complètement abandonné certains de mes projets que je travaillais là-dessus, comme les betteraves. J'ai un poireau aussi que je travaille dessus. Fait que je les ai gardés un peu de côté. Puis là, je suis prête, je dirais, à réembarquer dans plus de production de semences. Puis j'ai aussi, à travers mon parcours, j'ai pas mentionné, mais le BC Coastal Co-op était une grosse partie de ce parcours-là aussi. Pendant que j'étais à UBC, j'ai eu la capacité, le temps de pouvoir travailler avec d'autres semenciers ou en Colombie-Britannique à créer une coopérative de semenciers, une semencière qui s'appelle le BC Coastal Co-op. Je pense qu'on approche probablement une dizaine d'années, hein, peut-être entre 7 et 10 ans, je dirais présentement. C'est ça, c'est une coopérative de semenciers semencières. Alors, on fait pousser nos semences individuellement sur nos fermes et on les vend ensemble, on les met ensemble pour la vente.
Ouais, c'est tellement hot. Puis je me rappelle, je pense qu'on pourrait passer tout un épisode à parler de l'expérience de la BC Coastal Co-op et on t'avait interpellé il y a quelques années pour présenter finalement cette expérience-là à des semenciers semencières québécois. Et Mel, tu mentionnais le Québec tout à l'heure, donc en fait, toi, t'es né au Québec, c'est ça?
Oui, je suis née au Québec en campagne, une petite campagne du Québec.
Où ça exactement?
Ça s'appelle Saint-Barthélemy, c'est sur la rive nord entre Trois-Rivières et Montréal.
Ok.
Tout près de Trois-Rivières, c'est dans la région de la Naudière.
Donc c'est ça en fait, donc toi, t'es né, t'as grandi au Québec, et puis et c'est juste il y a quoi, une vingtaine d'années que tu es venu en Colombie-Britannique?
Oui, ça fait. Je suis déménagée en Colombie-Britannique en 2005, fait que ça approche une vingtaine d'années présentement, oui. Puis sans donner mon âge, mais j'étais dans la vingtaine.
Ah, ok, sans donner ton âge. Et donc ce que je te proposerais maintenant, c'est qu'on discute un peu plus de ton projet de betterave, en fait, parce que je suis assez curieux de la genèse, de l'origine de ce projet-là, puis où est-ce que vous en êtes rendu aujourd'hui, en fait. Donc, est-ce que tu peux me donner un petit survol de qu'est-ce que c'est quoi ton rapport avec ce légume-là, et comment vous avez travaillé ensemble ces dernières années?
Ouais, comme beaucoup de choses dans ma vie, tout arrive par accident, je dirais. Même si on fait des plans, on dirait les plans ne se passent jamais comme prévu, mais bon. Comme je parlais quand j'étais à l'université de Colombie-Britannique, on a commencé à faire des essais de variété, de variety trial. La première année, qui était en 2016, on a sélectionné la betterave. Principalement, qu'est-ce qu'on voulait? Dans le fond, les questions qu'on se demandait, c'est est-ce que la betterave, elle serait un bon... serait un bon légume à pousser pour les semences dans notre région. Et on savait déjà un peu la réponse était oui, parce qu'on est, comme on parlait un peu plus tôt, les biennuels sont bien à faire pousser ici. On est une bonne région pour ça. Je crois que la majorité des semences de betteraves est poussée même dans les régions au sud de la frontière de nous, dans la région de Skagit. Alors, on croyait que c'était une bonne essai à faire pour nous de pouvoir trouver des variétés de betteraves qui marcheraient bien pour notre région, que les agriculteurs, agricultrices voudraient utiliser. Et puis, on va faire un petit peu de recherche autour de ça. Alors, on était curieux et curieuses de savoir quelle variété de chioggia et quelle variété de betteraves dorées ou jaunes, je ne sais pas comment les personnes veulent l'appeler, performaient le mieux. Comme ça, on pouvait aviser nos producteurs de semences de quelle variété pourrait pousser les semences que les producteurs voudraient avoir. C'est un peu ça l'idée derrière l'origine de l'essai de variété.
Donc c'est ça, quand on est maraîcher, on s'intéresse principalement à bah, est-ce que ma semence donne une bonne racine, l'uniformité de la racine, puis le goût. Mais vous ajoutez un autre volet là-dessus, c'est est-ce que la variété produit beaucoup de semences? Donc c'est ça, vous aviez observé des variabilités quand même en termes de quantité de semences produites. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Comment est-ce que vous mesurez la quantité de semences produites pour une planche de betteraves?
Ouais, qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'on savait déjà par expérience avec beaucoup de nos producteurs, c'est que la semence, la betterave dorée produisait énormément moins de semences que les autres betteraves. Je te dirais, en hiérarchie, c'était la betterave Chioggia qui en produisait le plus. Ensuite, les betteraves rouges ont énormément de diversité dépendant de la variété. Et les betteraves jaunes produisaient beaucoup moins. Alors, on était intéressé entre les quelques betteraves dorées qui existaient, quelles pouvaient produire le plus et est-ce que c'était désirable pour les maraîchers aussi. Fait que c'est beau de faire pousser les semences, mais faudrait les vendre. Puis avec comme en relation avec le BC Eco-Cequab aussi, qui, notre intention avec la coopérative était aussi de vendre des semences aux maraîchers, pas juste les jardiniers. Alors, tout ça était comme entremêlé un petit peu dans notre question, etc. Et puis, pour pouvoir, comme je disais, la première année, on a poussé, c'est sûr, on a poussé les semences, on a acheté les semences d'énormément de compagnies de semences. On les a fait pousser en variety trial avec les trois répliques
Avec trois
sur les plantes,
répétitions, d'accord.
répétitions, etc. Ça, on l'a fait vraiment comme, c'était bien fait, je dirais, à cause qu'on avait justement des personnes académiques qui venaient prendre les data
Les
qui
données, ouais.
étaient les données qui étaient désirées, etc. Et puis après la première année, c'est un peu là qu'on s'est posé la question, mais est-ce que ça serait possible aussi d'essayer de trouver des données sur la production de semences en tant que telle? Alors, c'est ça, on s'est lancé à entreposer beaucoup des variétés qui étaient désirables. Et puis l'année suivante, on les a fait pousser en semences. Mais le résultat de faire pousser en semences dans un seul endroit, c'est que la betterave, elle se croise.
C'est ça,
Alors,
il y a une pollinisation croisée par les insectes.
fait que notre réponse pour les semences, les quantités de semences, on pouvait la récupérer à la production de semences en tant que telle, mais toutes les semences qu'on a récoltées cette année-là, qui était l'année suivante, en 2017, ils étaient probablement croisés, ou on savait pas s'il y avait eu la chance de croiser ou pas, mais en étant, la betterave est un légume qui se croise avec le vent.
Avec le
Il
vent,
y a de
d'accord,
bonnes
pas avec les
chances.
insectes, ok.
Oui, c'est le vent principalement qui croise la betterave. Alors, on savait que certaines des variétés qui étaient côte à côte, probablement s'étaient croisées. Puis moi, on dirait que j'ai toujours un désir de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour la prochaine année, qui est un projet vraiment personnel à ce niveau-là, c'était de récolter toutes les semences séparées et les faire pousser en famille, dans le fond. Et puis de ça, je pouvais observer que si dans la famille d'une betterave dorée que j'avais récoltée, disons Touchstone Gold, qui était poussée en semence, je les ai récoltées en tant que Touchstone Gold. Mais si je voyais une betterave qui n'était plus dorée dans cette famille-là, je savais que j'avais eu un croisement, qu'il y avait eu le pollen avait été croisé avec la plante. Alors de cette année-là, j'ai sauvé ceux qui avaient l'air, qui étaient, on était rendu à la l'hybride, dans le fond, le
Ouais.
F1. Quoi que ce soit, on peut l'appeler la première génération de croisements. Alors, j'ai sauvé ces croisements-là. La prochaine année, on a fait encore pousser des semences et c'est là que ça partit, dans le fond, d'une année à l'autre. Je peux aller plus en détail, si tu veux, après chaque année, qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était comme le début, c'était encore là un accident de comme, ah, mais on a deux côte à côte, peut-être qu'on croisait, peut-être pas. Et puis, on a eu des résultats, il y a eu des croisements, c'est sûr. Alors, c'est ça que le projet a parti. La première génération de croisements, on ne se fiait pas vraiment là-dessus pour savoir qu'est-ce qu'on a vraiment comme produit à cause que c'était un hybride, un hybride pur. C'était vraiment les générations après qui sont devenues intéressantes.
Donc si je comprends bien, vous vouliez simplement une variété jaune, à l'intérieur jaune, mais qui produisait plus de semences. C'est ça?
Non, je pensais pas vraiment que ce soit. Ben, je veux dire, si c'est ça qu'on avait trouvé, ça aurait été idéal. C'est un peu. Je sais que souvent les gens ils font des cours sur la production de semences ou les croisements, ils disent tout le temps, et un but avant de commencer. Moi,
Ouais.
j'étais à l'opposé. J'avais aucun but.
Ouais,
J'avais juste une
ok.
curiosité de qu'est-ce qui allait arriver après. Un peu. Alors moi, mon intention à ce niveau-là, c'était vraiment d'observer qu'est-ce qui allait
Se
se
manifester.
Oui, merci, merci. Qu'est-ce qui allait se manifester de cette génération F2
Ouais.
après l'hybridation? Et puis, ça aurait pu aller de n'importe quel côté. Moi, je suis pas une personne qui a été formée à la reproduction des plantes, puis la génétique, etc. Je veux dire, j'ai mon baccalauréat de base, mais alors, ça aurait pu être qu'on aurait pu identifier une betterave jaune qui produisait énormément de semences. Mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment attiré dans les générations subséquentes après ça, c'est qu'il y a eu une betterave qui a gardé une couleur comme rouge dans le chioga, dans le sens de chioga, mais un petit peu plus foncé. Quand tu coupais à l'intérieur, tu avais la coloration jaune, mais encore les cercles intérieurs de le chioga. Et puis le feuillage, et à cause que c'était hybridisé à ce moment-là, c'était un croisement, le feuillage était très fort. Et était l'intérieur du feuillage était un vert, je dirais foncé, un peu comme la bêta-carde. Qu'est-ce qu'on désire de
Ouais.
la bêta-carde? Mais aussi beaucoup de betteraves sont comme ça. Mais l'intérieur
Les ribs là, les
le rib,
tiges,
moi,
c'est
le
ça?
stem
Ouais,
était
les tiges.
orange. C'était
Ouais.
vraiment ça, moi, qui me capturait l'œil en tant que maraîchère, en pensant encore au produit final, ce qui va être une betterave sur une table. À un farmer's market ou à un farm stand, etc. C'était ça qui était vraiment unique. L'intérieur était unique, les cercles avec l'orange, etc. Mais j'aimais vraiment beaucoup le feuillage qui en sortait aussi, qui était vraiment unique. Alors, cette combination-là est devenue, dans le fond, le projet pour moi. À ce niveau-là aussi, qu'est-ce qui était intéressant, c'est qu'on avait quelques membres qui ont été intéressés aussi à ce croisement-là. Alors, on a comme distribuer les semences de cette population-là. Je pense que c'est rendu à la deuxième génération de distribuer en disant au monde, regardez, faites-les pousser, vous allez avoir énormément de variations. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, sauvez-la, travaillez avec. Donc, moi, c'est ça que j'ai fait. Je suis plus vraiment au courant s'il y a quelqu'un d'autre qui continue à travailler sur ces betteraves-là, à part moi. Mais pendant une couple d'années, je sais qu'il y avait d'autres semenciers, semencières qui ont aussi probablement fait leur propre sélection. C'est ça qui est la beauté, dans le fond, d'un croisement. Il peut avoir plus qu'une, un résultat. Mais là, celui que je travaille avec, c'est celui que je viens de décrire vraiment là, celui qui était avec un beau feuillage orangé et vert et l'intérieur avec un croisement assez unique, je dirais. Oui.
Donc c'est ça ce que t'expliques, c'est que ton objectif de sélection est venu une fois qu'il y avait des combinaisons aléatoires qui se sont faites par la pollinisation et que vous avez partagé donc en fait les semences à plusieurs personnes qui sont parties avec leur propre sélection. Je suis curieux si est-ce que t'as quand t'as goûté les betteraves, est-ce qu'il y avait un Au niveau du goût, est-ce qu'il y avait c'était une expérience similaire avec les autres betteraves que tu avais goûtées? Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent?
Oh my God, la betterave, c'est une des compliquées, celle-là. Les carottes, même à la limite, c'est pour ceux et celles qui ont fait des goûtages ou
Des tests de goût,
des
ouais.
expérimentations. Après une coupe de carottes, tu deviens brûlé, le
Ouais,
palais devient
tellement.
brûlé. La betterave, c'est encore, je dirais pas c'est pire dans le sens que tu n'as pas le même goût de carotte qui va vraiment te brûler le palais. Mais la majorité du temps, les betteraves ne sont pas, les betteraves sont cuites. Je dirais, c'est vraiment, je vais dire ça demain, mais probablement 3/4 du temps, quand les personnes achètent des betteraves, c'est pour les cuire. C'est sûr qu'on peut les utiliser aussi crus. Alors,
Moi, je les mange que crus, en fait. Je les mange jamais cuits. Donc,
le
je vais te contredire là-dessus, Mel.
Non, mais je sais, c'est ça, ça se mange cru, puis on a beaucoup de chefs qui travaillent avec nous qui mangent cru. Mais de faire un essai de goûtage entre l'un et l'autre, on l'a fait cette l'année qu'on avait fait les essais de variété pour la betterave, mais j'ai pas, personnellement, j'ai pas le palais assez
Ouais.
distinct pour vraiment travailler là-dessus. Puis je me suis dit, dans le fait de, quand on fait de la reproduction des plantes, de la sélection, etc., j'ai travaillé. J'admets que je travaille principalement avec le visuel
Ouais,
présentement.
je vois.
Je dirais qu'un coup que ma variété va être stabilisée à un certain point, je dirais qu'on s'approche un peu, mais un coup que ça va être stabilisé à un certain point que je peux voir dans l'avenir pouvoir lancer une nouvelle variété avec un nom unique, c'est là que probablement je vais porter un peu plus attention s'il y a des variations de goût à ce niveau-là. Ou est-ce que c'est comparable? Probablement que je devrais vérifier présentement si, par exemple, j'étais à vérifier entre l'origine de la betterave dorée et l'origine de la betterave Chioga sont beaucoup meilleures que la betterave que je travaille avec. Je devrais probablement savoir ça. Mais je fais un peu comme un educated guess que c'est probablement au même niveau.
Ouais, c'est
Il
ça. C'est
peut y
peut-être pas
avoir des
comme dans.
variations, mais
Ouais.
je dirais que de faire la reproduction des plantes, de la sélection pour le goût, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment un challenge. Je pense qu'on ne devrait pas l'ignorer,
Ouais.
ce que présentement je fais,
Ouais.
mais c'est dans le futur, je dirais, parce que présentement, j'ai encore une grande variation. On est rendu à je pense que je suis la quatrième génération qu'on va faire pousser cette année. Puis il y a encore une grande variation que je dirais plus, environ 50-50 que je vais avoir le produit que je cherche, que la betterave que je cherche.
OK.
Et l'autre 50% est encore en train de se diviser et de se ségréguer. Ouais. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire avant qu'on en arrive à un nouveau légume, une nouvelle variété, je
Ouais.
dirais.
Moi, ma perspective par rapport au goût, c'est dans certains légumes, c'est vachement important dans les carottes rouges, par exemple, où il y a beaucoup de goût d'épinette, des amertumes, du goût de
Ouais.
savon, et ce qu'on veut vraiment pas, est-ce qu'on veut épurer. Mais si la variété ou la population avec laquelle on travaille goûte aussi bien que ce qui existe déjà, et qu'elle a pas, qu'elle n'est pas vraiment qu'elle va pas nous rebuter au niveau du goût, je pense c'est let's do that, tu vois, allons-y avec ça. C'est génial de trouver des variétés avec des goûts incroyables, mais c'est peut-être mettre la barre un peu haute au niveau de l'objectif de sélection. Puis comme tu as dit, travailler avec le visuel, c'est comme presque, c'est plus intuitif, ça, c'est plus facile à intégrer dans le workflow, c'est plus facile finalement à sélectionner. et à choisir au moment de la récolte en fin de saison qu'est-ce qu'on garde pour l'entreposage, quoi.
Ouais, je suis d'accord. C'est autant si longtemps que le produit est pas néfaste au niveau du goût.
Ouais, c'est ça, ou toxique.
En tant que fermière, en tant que maraîchère, quand on va au marché, etc., je veux dire, les gens, ils vont acheter avec leurs yeux. Ils achètent pas avec, il y a pas de... Autant si longtemps qu'ils vont pas à la maison, qu'ils sont désappointés par le goût.
Ouais.
Puis c'est un autre aspect aussi de ce projet-là qui est intéressant, c'est que quand je fais ma sélection, ici, nos lits, nos planches sont de 100 pieds. Je fais pousser toujours un lit de 100 pieds, au moins, si c'est pas deux ou trois. Et on utilise nos semences dans notre production. Dans le fond, au marché ici, on vend des betteraves on les appelle les Rainbow Beets, les betteraves arc-en-ciel, parce qu'ils viennent toutes de ce lit, de cette planche-là
Ah oui.
d'essai. Comme ça, je peux sélectionner ceux à travers la planche que je veux garder. Et le reste, on les récolte, on les vend. Alors, je pense que si. Puis on les mange nous-mêmes. Alors, s'il y avait vraiment quelque chose de néfaste, on l'aurait probablement déjà
Bien sûr, bien sûr. Si tu les as tous
dans les
goûtés, en fait,
robustes. C'est
je vois.
exactement. Fait que c'est un peu ça l'avantage aussi de travailler avec ce légume-là, je trouve, parce qu'il n'y a rien de perdu.
Ouais, c'est tellement une belle façon d'optimiser le travail de breeding et d'optimiser finalement les investissements qu'on met en termes de temps, ou en termes d'espace, de superficie, parce que quand on est une ferme maraîchère bio-intensive, chaque espace doit être compté pour finalement essayer de rentabiliser votre projet d'entreprise, quoi.
Oui, exactement. C'est une grosse partie de la calculation qu'on fait. La raison pour laquelle j'avais dit aussi au début de notre ferme ici, on fallait vraiment focusser sur le côté maraîcher avant d'intégrer plus de semences, parce que les semences, il faut vraiment que tu sois dédiqué, mais aussi que tu vois vraiment la partie, je dirais, niche, tu sais, le côté qu'est-ce qui va vraiment, vraiment marcher dans mon système. Des fois, ça prend des années d'essais et erreurs pour faire ça. Alors, pour de connaître sa région aussi, qu'est-ce qui marche bien dans une région ou une autre, c'est pas toujours les mêmes.
Donc là, tu en es rendu à la quatrième génération. Donc en fait, c'est un projet qui t'en est rendu à la huitième année finalement parce que c'est une bisannuelle. Est-ce que tu as eu on va dire des choses inattendues qui te sont arrivées, par exemple des pertes en chambre froide à cause de rongeurs ou de moisissures? Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as l'impression que t'as reculé dans ton projet, où t'as vraiment eu des embûches ou des obstacles?
Non, avoir des enfants, c'est probablement le plus gros recul que j'ai dans la majorité de mes projets. La concentration, pour garder une concentration sur qu'est-ce qu'on fait, puis de pas oublier ces projets de côté-là. La première année, dans le fond, qu'on déménageait à la ferme, j'avais une récolte de betteraves, dans le fond, à UBC, qui était prête, qui était entreposée. Je l'ai entreposée, on va déménager. On est déménagé ici en décembre. Alors, j'avais fait un deal avec le monde de UBC. Je suis comme ça, c'est mes betteraves. Mais vous les gardez dans votre réfrigérateur parce que je n'avais pas encore, on n'avait rien à la ferme. Il fallait tout monter de base. Alors, on a fait un entente, dans le fond, avec UBC qu'elle pouvait garder la moitié des racines. Puis moi, j'allais venir chercher en mars, j'allais retourner en ville, aller chercher l'autre moitié des racines, pour on pouvait avoir notre propre projet. Puis on était tous d'accord avec ça. Alors, cette année-là, ça a bien été. J'avais pas beaucoup de place sur la terre ici pour faire ce projet-là. Je les avais mis un peu de côté dans un des jardins qui était un petit peu plus le jardin de famille. Et une chose qu'on a découvert sur notre ferme, c'est qu'on a une grande population de rats. des rats comme ça se peut pas. Et
Ah
on a
ouais,
des
hein?
poules. Alors, les poules et les rats vont très bien ensemble avec le poulailler, etc. Alors, cette année-là, on a mis nos racines en terre, mais je dirais le pourcentage de semences que j'ai récupérées au bout de la ligne était peut-être de 5 à 10 %. Les rats littéralement montaient les tiges pour aller chercher les semences. Alors, mais j'ai récupéré assez. Je veux dire, c'était pas vraiment une semence au niveau. J'avais pas planifié de la vendre à la coop, etc. Je voulais vraiment juste garder la génétique. Alors, chaque plant, j'ai réussi à récupérer un petit peu de semences de chaque plant pour garder la génétique en tant que telle. Et là, on est reparti l'année prochaine. Je les ai mis un peu plus loin du poulailler, disons, pour la prochaine année. Ça, c'était un des obstacles, hein, de découvrir que c'est ça avec des racines en terre, des semences. Je veux dire, à UBC, je me rappelais, c'était des oiseaux. Il y avait tellement de dommages avec les oiseaux qui descendaient. Peut-être c'était à cause de la ville, je ne sais pas c'est quoi. Et encore là, la personne présentement qui est à UBC qui fait des semences, j'y parlais une couple de semaines, puis c'est un de ses plus grosses remarques. C'était waouh, comment on va vous sauver des semences ici? Les oiseaux, aussitôt qu'ils sont prêts, ils savent exactement, puis ils attaquent les récoltes de semences. L'autre chose que j'étais un petit peu surprise, surprise oui ou pas, c'était la vigueur de ces betteraves-là. Qu'est-ce que j'aime énormément, c'est sûr, comme pour ceux et celles qui travaillent avec open pollinated, puis ceux qui travaillent avec les hybrides, il y a une relation de vigueur qui vient un peu dans l'équation. Pas toujours, mais en général, on peut trouver une certaine vigueur en croisant. Ces betteraves-là, en partant, les deux étaient open pollinated. En les croisant, on a créé un hybride. Puis la betterave a vraiment retenu cette vigueur de se faire en hybride. qui est une des choses, comme on parlait dans la betterave dorée au début, la betterave dorée ne donne pas énormément de semences. C'est une betterave, c'est un peu pour ça que le coût de la betterave dorée, des semences de betterave dorée sont plus élevés, alors parce qu'il par acre, tu récolteras jamais autant de semences que les autres. Je te dirais, la betterave que je travaille avec présentement est égale à la betterave Chioga au niveau des semences, de la création de
Oh,
semences.
wow.
C'est très vigoureuse. Elle a retenu cette expérience-là. Fait que c'est bon de travailler aussi avec un produit que je sais que autant que les clients vont aimer la couleur, vont aimer la texture, vont aimer tout le goût, on espère bien le goût. Autant que les personnes qui les poussent vont aimer la vigueur de la croissance, mais les
Ouais.
semenciers peuvent aussi aimer la vigueur de la production de semences. Fait que c'est à date, je vois pas vraiment beaucoup de négatifs sur cette betterave-là si je finis par la stabiliser.
Tellement cool. Une des questions que j'ai pour toi, Mel, c'est comment tu fais pour sélectionner la couleur de la chair de la betterave?
C'est une des parties, dans le fond, pour laquelle c'est important de les réenlever de la terre. Parce qu'en pratique, on pourrait probablement laisser les betteraves en terre et les faire pousser à la semence à la deuxième année. Je suis même des personnes auraient probablement déjà eu cette expérience en abandonnant les betteraves dans leur jardin pour les revoir pousser au printemps. Mais c'est la partie importante qu'il faut faire à chaque année, c'est de sélectionner la couleur. Puis, en étant, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est taproot. La betterave pousse d'une racine principale, pas d'une racine fibreuse. Alors, si tu étais pour couper la betterave en deux, comme on fait avec les carottes, si quelqu'un avait expérimenté avec les carottes, tu peux couper la carotte en deux, regarder l'intérieur et repousser même avec un petit peu de top qui reste, puis ça va repousser quand même. Mais la betterave, si tu fais ça, c'est fini. Ça va moisir, ça sera plus bon. Avec la betterave, il faut prendre un côté. Alors, on va faire une petite incision, une coupe dans le côté. Et comme ça, on peut voir aussi l'intérieur. Fait que si c'est une betterave qui a des traits de Chioga, on va pouvoir voir les cercles à l'intérieur de cette façon-là, voir la couleur à l'intérieur. Et fait que chaque betterave que je sauve, que la majorité des personnes qui font de la semence de betterave sauvent pour la sélection, et c'est la seule façon, dans le fond, de voir l'intérieur. À l'extérieur, c'est la peau. On ne peut pas voir vraiment la chair. Alors, on va les couper une par une. Puis on va vraiment voir, il y a une grande variation. Même si visuellement, je regardais deux betteraves côte à côte, sont identiques, ils ont les mêmes tops qui ont été sélectionnés, ils ont la même couleur de chair, désolé, la même couleur de peau. Tu les coupes, il va y avoir une variation à l'intérieur. Alors, c'est vraiment une étape importante pour la betterave, si c'est ça l'intention de la sélection. C'est une étape importante à faire. Et la suite, l'autre étape, c'est de les réentreposer après pour qu'ils puissent guérir leurs plaies.
Ouais,
J'ai
les
perdu
comme
ça dans le cours.
cicatriser, c'est ça?
Cicatriser avant de les remettre en terre.
Ouais.
Comme ça, il y a une meilleure tolérance à la réenracinement
Ouais.
qui se produit à ce niveau-là. Alors, c'est. Puis moi, je dirais, à la limite, c'est peut-être la partie la plus le fun de faire la sélection de betteraves, c'est quand tu fais la coupe, parce que c'est tellement. Ouais, la variation qu'on découvre fait tellement excitante et en même temps, t'es comme, ouais, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ces jambes? Pourquoi c'est. Tu sais, il y a une explication, puis je suis sûre que les personnes qui travaillent en reproduction de plantes qui se spécialisent en betteraves pourraient m'expliquer de long à large pourquoi. Mais en étant juste une maraîchère qui fait ça sur le côté, je trouve que c'est vraiment une partie de fun à découvrir.
Pour quelqu'un qui veut produire des semences de betteraves, donc on a parlé de, on produit la racine la première année, on sélectionne les meilleures racines, on les entrepose, on les repique, c'est-à-dire qu'on les replante au printemps, et après tu vas mettre des sortes de treillis pour que les tiges ne se brisent pas au vent, c'est ça?
Oui, idéalement, il y a besoin de treillis. Je veux dire, tu peux toujours la produire sans treillis, mais qu'est-ce qui va arriver, c'est souvent les branches inférieures vont commencer à casser sur le poids. Si tu as une bonne semence, c'est un bon récolte de semences, et les branches vont casser un petit peu s'il n'y a pas assez de treillis qui supportent. C'est sûr, si tu as une production en champ de disons, 3, 4, 5 planches côte à côte, à l'intérieur, les plantes peuvent s'auto... treillis. Le
Ouais,
gérer, c'est vraiment plus
auto-supporté,
de
quoi.
l'extérieur.
Ouais.
C'est vraiment, ça dépend de la pratique, ça dépend de la fertilité en sol que tu as aussi. Le plus près des plantes sont de l'un à l'autre, le plus qu'ils peuvent se tenir les uns les autres ensemble. Nous, ici, on n'a pas des sols extrêmement fertiles, fait, je tente à mettre mes plants un petit peu plus espacés. Alors, je vais mettre des treillis. Puis aussi, je trouve que bon, le plus de branches qui sont à terre, le plus de branches qui tombent, pour moi, avec la population de rats comme j'avais, c'est le plus de. Ça, c'est les premières semences qui se font manger. Fait que les tenir un petit peu plus en haut facilite la récolte aussi
Ouais.
à ce niveau-là. Oui.
Et une fois que t'as récolté les semences, ensuite tu les vannes avec le vent, tu les cribles avec des tamis, et that's it.
Ouais, ça dépend de la quantité. Je dirais, si j'embarque vraiment dans la production de betteraves sérieusement, il y a vraiment des équipements que j'aimerais me trouver, comme il y a des threshers. Est-ce qu'il y a un mot pour
Je
thresher en
pense que
français?
ça s'appellerait des batteuses, des
Des
batteuses ou des...
batteuses.
Ouais, c'est ça.
OK. Il y a des batteuses qui peuvent marcher vraiment. Je dirais, la complication avec les betteraves, c'est que c'est des semences tout nues,
Ouais, des semences nues,
d'infertilité. Ils
ouais.
n'ont pas de couverture, ils n'ont pas de châle, ils n'ont pas de rien dans l'intérieur. Ils sont attachés directement sur la branche. Et s'il y a des niveaux de séchage que tu peux vraiment obtenir avec la betterave qui est idéal, c'est-à-dire que tu peux déconnecter la semence de la branche sans casser la branche. Parce que la branche en tant que telle, la pesanteur de la branche peut devenir égale à la pesanteur de la semence qui est vraiment difficile à séparer à la suite. Fait que je sais qu'il y a des batteuses qui peuvent être utilisées en frappant la batteuse, les semences se détachent, mais la branche ne casse pas, ce qui demande un niveau d'humidité, oui, dans la branche qui est assez élevé pour que la branche ne casse pas.
Je vois.
Ensuite, on peut continuer. Fait qu'il y a vraiment il y a beaucoup de variations dans la récolte de betteraves. Si c'est fait juste à main et à pied, c'est quand même assez. Ça prend quand même beaucoup de temps si c'est pas mécanisé avec la
Ouais.
betterave. Au niveau qu'on fait ici, au niveau qu'on faisait à UBC, et avec la demande à la coop présentement, je dirais que c'est faisable de le faire à la main. Et puis l'autre chose que je découvre à travers les années, c'est comme je dis, j'aime ça produire des semences qui peuvent être utilisées par les maraîchers, pas seulement avec les jardiniers. Les maraîchers de plus en plus veulent avoir de la précision au niveau de la grandeur des semences. Au niveau,
Ouais.
la betterave est produite en qu'on appelle cluster, en groupe, est attachée l'un à l'autre. De plus en plus dans
Donc,
les
c'est-à-dire que
catalogues.
tu as plusieurs semences qui sont attachées
Ouais.
les unes aux autres, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ça, c'est une façon naturelle. Puis de plus en plus, il y a beaucoup de compagnies, les plus grosses compagnies offrent des semences de betteraves qui sont détachées, qui appellent ça monogerme.
Oh,
Fait
wow.
que une semence, un sprout, dans le fond,
Ok, et c'est pas la
une
même
germination.
chose que les semences enrobées.
Non, c'est pas la même chose que les semences
Ok.
enrobées. C'est juste dans le fond, je pourrais même pas expliquer comment qu'ils font en tant que
Ouais.
tel, mais c'est une technique, une pratique qu'ils font qui vont mécaniser la séparation de la semence, dans le fond, pour pouvoir les vendre en grandeur. Alors, c'est sûr qu'on nous, on se ramasse avec des semences qui ne sont pas comme ça, sont attachées l'un et l'autre ensemble, ce qui crée une difficulté aussi à la vente. Puis, si tu utilises une mécanisation au niveau de semer en tant que
Ouais.
maraîcher, On a les ginseng seeder, puis etc., etc., que tout le monde aime tellement. C'est plus dur à avoir une uniformité à la semence. Ici, je dirais nos planches de betteraves que l'on sème avec cette variété-là que je travaille dessus, avec le croisement, on les sème à main. Parce
Ouais.
qu'on a expérimenté un petit peu avec le ginseng seeder qu'on a ici, qu'on utilise pour 95% de nos semences. Puis c'est pas idéal, disons, à
C'est pas
main.
uniforme en fait. OK.
Ouais, fait que ça peut prendre beaucoup plus de temps à semer présentement. Fait que c'est quelque chose aussi que je veux dire en tant que sélection, c'est quelque chose que je peux pas vraiment travailler énormément dessus pour
Ouais.
l'instant. C'est vraiment plus au niveau que quand on fait le nettoyage des semences, puis va falloir m'emmener probablement se spécialiser un petit peu plus, avoir l'équipement qu'il faut pour séparer les grandeurs, puis séparer semences en tant que telles. Fait que il y a encore beaucoup de développement, je trouve que à mon niveau, au niveau de ma ferme, il va falloir faire pour pouvoir avoir cette semence qui est disponible commercialement puis qui est aussi attirante commercialement pour les producteurs.
Wow, c'est donc c'est ça, c'est
Another
même.
chose.
Ouais, c'est ça, c'est une fois que tu as développé une bonne variété, il faut que tu aies tout ton procédé d'extraction, de nettoyage de semences, et pour pouvoir rendre ça attirant finalement pour les professionnels. Donc il y a quand même pas mal de défis pour commercialiser ces projets-là. Comme tu as partagé avec nous, Mel, pendant toute cette heure de discussion, tu as été motivé, tu as eu l'occasion de travailler avec la betterave et d'intégrer ça dans ton système de production pour essayer de développer une nouvelle variété. Et je me demandais si tu avais un peu des wise words ou des mots de sagesse ou d'encouragement à d'autres personnes, d'autres jardiniers, d'autres maraîchers ou amateurs sélectionneurs qui seraient intéressés à travailler avec avec ce type de légumes, avec des espèces bisannuelles, avec des betteraves, avec des légumes pour essayer de faire de l'amélioration ou de la création de nouvelles variétés.
Oui, il y a tellement d'opportunités présentement. Je pense qu'on est dans un moment dans le côté maraîcher avec les semences, etc. Et de plus en plus, on ouvre les catalogues de semences au printemps, mais c'est vraiment l'automne maintenant qu'on ouvre les catalogues de semences à l'hiver. Et puis de plus en plus, il y a des hybrides, des hybrides, des hybrides. Puis il y a la qualité des hybrides. Je veux dire, je suis victime en tant que telle, en tant que maraîchère. J'achète énormément de semences hybrides. Mais on vit dans un monde que tout est tellement compacté, tout est tellement, on n'a jamais le temps de rien faire, puis on est tellement occupé, puis etc., etc. Puis c'est ça qui manque. Il y a du potentiel dans les open pollinated pour vraiment ramener la vigueur, ramener qu'est-ce qui est désirable dans ces légumes-là. Il faut travailler avec, il faut vraiment se dédiquer à quelque chose. Hein. C'est ça qu'on manque, même en frais que de maraîcher. Je sais, de plus en plus, même, il y a énormément de cours qui se donnent, comment être plus efficace, comment de faire plus d'argent, etc., etc. Il faut encore avoir une passion. Il faut encore avoir comme un projet qui va faire partie de cette donation à la communauté, de cette donation au peuple humain, pratiquement, je dirais. Des fois, on oublie ça un petit peu à travers notre parcours en tant que maraîcher. C'est pas toujours. C'est sûr qu'il faut faire de l'argent. C'est sûr qu'il faut faire vivre notre famille. C'est sûr qu'il faut rester en santé, plus ou moins. Mais d'avoir ces projets-là de semences, moi, personnellement, c'est ça qui me garde un petit peu en vie et excité, puis le goût de partager. Je veux dire, probablement, je ferai jamais d'argent par rapport à ces betteraves-là. C'est pas l'idée derrière ça. Mais c'est excitant de voir une nouvelle variété apparaître. C'est excitant de travailler avec ça, de voir la vigueur. C'est excitant de voir que c'est pas un hybride, puis ça performe aussi bien qu'un hybride, même mieux que certaines betteraves hybrides qu'on a poussées. Puis l'autre aspect de ça que j'aimerais partager, dans le fond, c'est que comme j'ai dit une couple de fois encore, j'ai eu beaucoup de projets accidentels dans ma vie. Et des fois, on s'embarque comme on aime quelque chose. T'sais, on s'embarque, puis on pousse et on pousse, puis on dirait que ça marche jamais. Puis de vraiment garder l'esprit ouvert sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Chaque région est unique. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui est très passionné par un légume, mais vous êtes dans une région que les légumes ne poussent pas bien, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. C'est peut-être de découvrir quelle variété pousse vraiment bien dans cette région-là, dans ce légume-là, puis de vraiment focusser là-dessus. Mais je pense qu'au bout de la ligne, à cause qu'on est tellement poussé au niveau de notre temps, au niveau de notre argent, etc., à la survie présentement, c'est probablement beaucoup plus wise, je dirais, de commencer, si on fait juste commencer dans la semence, de commencer avec les semences qui marchent bien en partant dans nos régions. Je veux dire, on est tous uniques dans nos régions, puis je pense de travailler ensemble, c'est un petit peu aussi l'idée avec le BC Coastal Co-op. Même si on est tous en Colombie-Britannique, la Colombie-Britannique est grande, on a des déserts, on a des rainforests, on a le nord, on a le sud, etc., etc., on a la côte. Alors, on a énormément de diversité ici. Alors, à travers ces régions-là, si on se spécialise un petit peu, même si on est dans la même province, fait que sur la côte, on fait plus des biannuels. Dans le nord, ils peuvent plus sélectionner pour qu'est-ce qui est hardiness, tu sais, qu'est-ce qui va résister au
La
gel.
rusticité.
Dans le Okanagan, ils peuvent focusser un petit peu plus sur la sécheresse, etc. Alors, il faut tout travailler ensemble au bout de la ligne. On s'en sortira pas tout seul. C'est un petit peu ça aussi avec les semences, mais il faut faire aussi attention à ce qui est arrivé à l'industrialisation. Comme je disais au début, la majorité des semences de betteraves sont toutes poussées dans une région au sud de nous ici. C'est
Où
quelque chose
ça?
d'inédit. C'est dans la vallée du Skagit. Je pense que je pourrais pas donner de nom, mais je pense que plus que la moitié des betteraves, des semences de betteraves qui sont distribuées dans le monde sont poussées dans cette région-là.
En Oregon, c'est ça? Ou sans...
Non, c'est dans l'État de Washington, dans le
Washington, c'est ça.
Skagit Valley, dans l'État de Washington.
Je pense que ça, c'est tellement peu de gens savent qu'il y a une concentration régionale de la production de semences sur le marché de la semence, finalement.
Oui, c'est ça, mais il y a des raisons pour lesquelles c'est fait.
Ouais.
C'est parce que cette région-là était parfaite pour les betteraves et ils sont spécialisés. Je veux dire, ils ont des gens même spécialisés dans toutes les maladies qui peuvent arriver aux betteraves sont situées là. Puis c'est plus le Skagit puis Wilmette, je pense. Ouais, je peux me faire corriger par rapport à ça, mais il y a énormément de betteraves, bref, qui poussaient là. Puis c'est ça qu'il faut faire attention. C'est tentant aussi de découvrir comme, oh, je suis tellement bon ou je suis tellement bonne pour faire cette semence-là ici, dans cette région-là, que tout le monde arrête de le faire parce que je suis la meilleure. Mais il faut continuer à travailler. C'est ça qui est un peu la résilience aussi d'un système agriculture, d'agriculture, un système agricole, agricole. C'est ça qui est l'avantage, c'est vraiment de garder cette diversité-là. C'est une biodiversité, c'est une diversité de plantes. De pas de tomber dans l'industrialisation non plus. Alors, c'est de trouver ce point parfait pour chaque personne. Qu'est-ce qui est la perfection dans la diversité où est-ce qu'on peut en s'entraider, aussi se spécialiser en même temps, puis de pouvoir tout survivre ensemble, puis de continuer aussi, même plus que la survie, de continuer de s'améliorer tout ensemble.
Yes, génial. Merci Mel pour ce mot de la fin. Je voudrais en profiter pour notre audience, pour ceux qui sont intéressés par l'aspect un peu plus scientifique de la sélection des semences de betteraves. On a une collègue qui s'appelle Solveig Hansen qui a fait sa dissertation sur le développement de variétés de betteraves à pollinisation libre. Je pense qu'elle a fait ça dans la région des Grands Lacs, dans l'Université Wisconsin-Madison aux États-Unis. En tout cas, si vous êtes intéressé par la littérature scientifique sur le sujet, c'est un bon point de départ. Je voudrais te remercier, Mel, pour cette belle discussion qu'on a eue. Et puis, je voudrais te souhaiter bonne chance avec tous tes projets. Je te souhaite un bel hiver. Puis, bonne chance avec tes projets familiaux et d'entreprise. Et bien sûr, avec ta nouvelle variété de betteraves qui va s'en venir dans une couple d'années.
Ben oui. Puis si les gens sont intéressés aussi avec ces betteraves-là, je les vends déjà à la coop, mais c'est vendu comme un croisement. C'est ça qui est l'autre avantage aussi avec les croisements, c'est que c'est vendu comme un croisement. C'est que si quelqu'un d'autre veut être inspiré, il veut s'amuser à sélectionner à l'intérieur de cette variation-là que j'ai, c'est disponible même. Alors j'invite toutes les personnes à expérimenter s'ils veulent, puis de me laisser savoir qu'est-ce qu'ils découvrent aussi, parce que j'ai une capacité limitée ici de faire ces expérimentations. Alors, le plus qu'on est, le meilleur, le mieux. Alors, ben merci d'avoir parlé de betterave pendant aussi longtemps que ça.
Ouais, vraiment. Ok. Bah écoute, je t'embrasse et prends. Puis les gens peuvent te suivre sur. Vous avez un compte Instagram avec Grounded Acres Organic Farm où j'imagine vous avez des photos de votre magnifique betterave.
Oui, on a un compte Instagram que ma copine est très, très bonne
Ouais.
à s'occuper. C'est Grounded Acres Organic Farm. Puis oui, si quelqu'un passe par le Sunshine Coast, venez dire bonjour.
Génial. Bon, bah, j'ajoute ça sur mon bucket list pour mes voyages canadiens. Bye bye, Mel. Merci encore,
Bye,
hein.
merci.
Le balado Les Semeurs est produit par l'initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un programme de Sème l'Avenir. Le bureau principal de Sème l'Avenir est situé sur le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg. Visitez semencesecure.ca pour trouver des transcriptions des épisodes, en apprendre plus sur nos projets et soutenir le travail fait au Canada dans le domaine des semences.